Des fois, on entend quelqu'un dire que pour lui, c'est des vaches maigres, ou plus rarement, les vaches grasses. Cela signifie qu'il est dans la dèche, ou au contraire, dans l'abondance. Mais peu de gens savent que ces expressions proviennent d'un rêve d'un pharaon, dans lequel cette vache décharnée et laide dévorait cette vache grasse. C'est Joseph, l'un des fils de Jacob, qui alors a donné l'interprétation de cette vision annonciatrice d'une terrible famine. Je continue à lire dans le chapitre 11 du livre des Proverbes. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé, mais il bénit celui qui le vend sans tarder. Proverbe 11, verset 26. Dans une société agricole, les céréales sont la principale richesse ainsi qu'une monnaie d'échange. L'agriculteur, qui attend une disette pour vendre sa récolte plus chère, est une malédiction pour la communauté. Joseph, que Dieu avait propulsé comme premier ministre et intendant du royaume d'Égypte, fut une bénédiction pour toute la population du Proche-Orient. Quand arriva la famine, particulièrement sévère, mais prophétisée, dans le livre de la Genèse, on lit: la famine sévissait dans toute la contrée. Joseph ouvrit tous les entrepôts du pays et vendit du blé aux Égyptiens. De tous les pays environnants, on y venait acheter du blé auprès de Joseph. Genèse 41, les versets 56 à 57. Alors que Joseph est un homme sage et généreux. Son contraire s'appelle Nabal. Ce triste personnage apparaît dans le premier livre de Samuel. C'est un homme très riche et le texte précise qu'il possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. Il était dur et méchant, et j'ajoute, du genre stupide. Alors que ses bergers tondent ses troupeaux, ils sont protégés contre les pillards par les hommes de David qui se tiennent à l'écart du roi Saül qui veut lui faire la peau. Un jour, David envoie quelques-uns de ses hommes pour demander à Nabal quelques subsistances, mais ce dernier les reçoit comme un chien dans un jeu de quilles. Je lis le passage. « Qui est David? Et vous croyez que je vais prendre de mon pain, de mon eau, de ma viande, pour les donner à des gens venus de je ne sais où ?» 1 Samuel, chapitre 25, les versets 2 et 3, chapitre 10, verset 11, chapitre 15, verset 16. En rendant le mal pour le bien, cet insensé met David dans une colère noire. Il voit rouge et décide une politique de la terre brûlée contre Nabal. Mais le massacre est évité par Abigaïl, l'épouse de Nabal, qui est une femme de bon sens et qui me fait penser à un proverbe du chapitre 11 qui dit « Une femme aimable obtient les honneurs ». Proverbe 11, verset 16. Et c'est ce qui lui est arrivé, puisque non seulement elle répare l'affront que David a subi, mais elle devient aussi son épouse après la mort de son mari. Je continue le texte. Qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur, mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Ceux qui se confient dans les richesses tomberont, mais les justes croîtront comme le feuillage. Proverbe 11, les versets 27 et 28. Le meilleur moyen de se faire bien voir est de bien faire. Par contre, celui qui se laisse diriger par ses mauvais penchants, par le mal moral, sème le malheur autour de lui. C'est une autre façon de dire que ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Une parole que l'apôtre Paul adresse aux Galates au chapitre 6 et au verset 7 et que je rappelle souvent. L'auteur va illustrer cette vérité de plusieurs façons. Et la première concerne les valeurs qu'on adopte comme règle de vie. Il n'y a aucun mal à posséder des richesses, à condition de ne pas en faire son idole. Jésus a raconté l'histoire d'un riche propriétaire qui, ayant fait une récolte exceptionnelle, décide de démolir ses silos à grains pour en construire de plus grands. Luc chapitre 12, les versets 16 à 21. Le problème de cet homme est qu'il ne voit que son nombril. C'est moi, je, et rien que moi. Il s'est parlé à lui-même et il s'est dit : mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Luc chapitre 12, verset 19. Mais Dieu a dit, « Insensé que tu es, cette nuit-même, tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ?» Luc 12, verset 20. Et Jésus de conclure, « Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. » Luc chapitre 12, verset 21. Le juste se comporte différemment. Il adopte les valeurs de Dieu. Dans le psaume 1er, on lit « Heureux l'homme qui met toute sa joie dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne ton jour, son fruit, lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Psaume 1er, verset 3. Je continue le texte. « Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent, et l'insensé deviendra l'esclave du sage. » Proverbe 11, verset 29. Cet insensé perd son héritage à cause des dettes qu'il a contractées suite à des dépenses futiles, et il finit serviteur d'autrui comme garçon de ferme, ou bien il est déshérité du fait de sa mauvaise conduite. Ce fut le cas de Siméon et Lévi, les deux fils de Jacob, parce qu'ils ont massacré tous les hommes d'une ville pour venger leur sœur qui avait été violée par le fils du roi. À cause de leur cruauté, ils n'ont pas droit à leur propre territoire en Israël et leurs descendants sont éparpillés dans les autres tribus. Genèse 34, les versets 25 à 30, chapitre 49, les versets 5 à 7. Je continue. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et celui qui est sage attire les autres. Proverbe 11, verset 30. Alors que l'insensé trouble sa maisonnée, ici c'est l'inverse. Le juste sème la bénédiction autour de lui. Quand Jésus a choisi ses apôtres, il leur a dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4, verset 19. Et c'est ce qui est arrivé, à l'exception de Judas. Et avec Paul et d'autres, par leur exemple et leur prédication, les disciples du Seigneur ont gagné d'innombrables personnes à Jésus-Christ. Sont justes et sages ceux qui obéissent aux préceptes moraux des textes sacrés. Ceux qui reçoivent une éducation fondée sur les valeurs judéo-chrétiennes et qui dirigent leur vie en leur obéissant ont davantage de chances de réussite dans ce monde. Et cela, même s'ils ne sont pas croyants. Parce que l'enseignement des Écritures est cohérent avec les exigences de la vie. En d'autres mots, ça marche. Celui qui obéit au commandement se préserve de bien des problèmes et verra la chance lui sourire. Je finis de lire le chapitre 11. Déjà ici-bas, le juste est sanctionné. À plus forte raison, le méchant est le pécheur. Proverbe 11, verset 31. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre cite ce verset d'après l'ancienne version grecque. Il écrit « Si, comme le dit l'Écriture, le juste n'est sauvé qu'avec peine, que vont devenir le méchant et le pécheur ?» 1 Pierre chapitre 4, verset 18. Comparé avec Hébreux chapitre 12, les versets 6 à 11. Nous arrivons maintenant au chapitre 12 qui couvre des thèmes très variés. Je commence à le lire. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'une bête. Proverbe 12, verset 1er. Ce n'est pas ici question de quantité de connaissances académiques dont on se remplit la tête, mais d'un savoir moral. Le sage discerne ce qui est important dans la vie. Il connaît les vraies valeurs et ses priorités sont dans le bon ordre. Et celui qui aime l'instruction accepte aussi de se faire corriger. L'un va avec l'autre. Étant donné que le mal habite le cœur de l'homme, le vrai savoir moral ne s'acquiert qu'au prix de froissements douloureux, mais salutaires. Je continue. L'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel, mais Dieu condamne celui qui forge des desseins coupables. Proverbe 12, verset 2. L'homme de bien est celui qui aime son prochain, qui lui témoigne de la bienveillance et qui est charitable envers lui. Dans le psaume 1er, on lit « les méchants sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Psaume 1er, les versets 4 et 5. Je continue le texte. La méchanceté n'affermit la position de personne, mais celui qui est droit sera pas déraciné. Proverbe 12, verset 3. Ce proverbe rappelle la parabole de Jésus concernant deux hommes qui ont bâti une maison. Le premier, censé la construire sur le roc, et l'autre, stupide, sur le sable. Et ce qui devait arriver est arrivé. La première maison a résisté à la tempête et la seconde s'est effondrée. Matthieu 7, les versets 24 à 27. Le roc représente la solide fondation de la parole de Dieu et les valeurs qu'elle représente. Celui qui les prend pour appui résiste aux épreuves de la vie. Je continue. Une femme au caractère noble est comme une couronne pour son mari, mais celle qui lui fait honte est comme une maladie qui ronge les os. Proverbe 12, verset 4. Le portrait complet de la femme vertueuse est peint dans le chapitre 31 du livre des Proverbes. Elle accomplit parfaitement toutes les obligations et commande le respect de son entourage, ce qui fait véritablement d'elle la couronne de gloire de son mari. 1 Corinthiens 11, verset 7. Les Écritures présentent beaucoup de femmes exemplaires, comme Sarah, la Tsunamite, Anne ou encore Ruth. Par contre, l'épouse qui fait honte est comme un cancer des os, un mal progressif et insidieux qui finit par tuer la personne atteinte de ce mal. Cette image décrit bien l'influence néfaste qu'exerce sur une famille une femme qui n'accomplit pas ses devoirs de maîtresse de maison et de femme soumise. Elle paralyse l'activité de son mari, mine son autorité et fait de lui un objet de pitié ou la risée du quartier. Les Écritures donnent plusieurs exemples de telles femmes. Après que Job ait perdu toutes ses richesses et ses enfants, le seul réconfort que lui apporte sa femme est de lui dire de maudire Dieu et de mourir. Il y a aussi la reine Athalie de Chroniques chapitre 22 verset 10 qui est une teigne idolâtre et cruelle, ce qui n'est guère étonnant puisque sa mère Jézabel, un roi chapitre 16 les versets 31 à 33, est la pire de toutes les femmes des Écritures. Je continue le texte. Les projets des justes sont orientés vers ce qui est droit, alors que les machinations des malfaiteurs ne songent qu'à tromper. Les paroles des malfaiteurs sont des embûches meurtrières, mais celles des hommes droits les délivrera. Renverser les méchants ne sont plus, mais la maison des justes subsiste. Proverbe 12, les versets 5 à 7. Le maître établit ici trois contrastes entre le juste et l'impie dans leurs pensées, dans leurs paroles et dans leurs actions. Chez celui qui est droit, tout est simple et limpide, et il vient en aide à ceux qui subissent l'injustice des hommes, comme le bon samaritain de la parabole, Luc 10. Je continue. Un homme est estimé pour son bon sens, mais celui dont le cœur est dépravé sera haï. Proverbe 12, verset 8. Parmi les personnages bibliques qui illustrent ce proverbe, le juge Gédéon, juge chapitre 6, verset 8, devient un héros parce qu'il est très posé et réfléchi dans ses décisions. Il fait l'admiration en son temps. Par contre, Abimélec, un de ses nombreux fils, est une brute épaisse et cruelle, un meurtrier de gros calibre, puisqu'il assassine tous ses frères, sauf un, ainsi que tous les habitants d'une ville. Juge 9. Je continue. Mieux vaut être méprisé et avoir un serviteur que de faire l'homme important et n'avoir rien à manger. Proverbe 12, verset 9. C'est le premier de 19 proverbes qui utilise l'expression « mieux que ». Vivre simplement, sans prétention, et avoir de quoi manger, vaut mieux que faire le beau et manquer du nécessaire. La réalité compte bien plus que sauver des apparences. Je continue. Le juste veille au bien-être de ses bêtes, mais le cœur des méchants est cruel envers elles. Proverbe 12, verset 10. Plusieurs commandements de la loi de Moïse montrent que Dieu se soucie des animaux. Exode 20, verset 10, Exode 23, verset 12, Deutéronome 22, les versets 6 et 7, chapitre 25, verset 4. Le juste a de la compassion pour tous les êtres vivants. Enfant, j'allais chez mes grands-parents qui habitaient en milieu rural. Et je voyais parfois des cultivateurs frapper violemment leurs vaches ou leurs chevaux. Je me souviens que je me méfiais d'eux et que je m'écartais de leur route. Celui qui est cruel envers les animaux l'est aussi envers son prochain. Les deux vont de pair, car c'est une seule et même attitude. On sait que les chiens sentent quand quelqu'un a peur d'eux. Eh bien, ils discernent aussi le caractère des gens. Ils vous reniflent et savent instinctivement si vous feriez un bon maître ou pas. Je continue. Celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance, mais celui qui s'engage dans une course frénétique auprès des chimères est dépourvu de sens. Proverbe 12, verset 11. Comparez Proverbe 14, verset 23, 27, verset 18 et chapitre 28, verset 19. Pendant des millénaires, l'agriculture et l'élevage sont les moyens privilégiés pour subvenir à ses besoins. Avec l'ère industrielle, les sphères d'activité ont évolué. Mais c'est le même principe. Il faut travailler et ne pas dilapider son temps. Je continue. Le méchant convoite le coup de filet des hommes mauvais. Mais la racine des justes donne du fruit. Proverbe 12, verset 12. La justice est la seule valeur que Dieu agrée. Les impies sont des parasites qui, au lieu de créer des richesses, pillent celles des autres. Comme une tare en appelle une autre, ils s'envient entre eux et de temps en temps, ils s'entretuent. Les désirs des méchants les conduisent à la ruine. Je continue. Le péché des lèvres est un piège pernicieux, mais le juste échappe à ses difficultés. Par ses paroles, on peut recueillir du bien en abondance et l'on reçoit le salaire de ses œuvres. Proverbe 12, les versets 13 et 14. La langue exerce un pouvoir qui peut être bienfaisant ou malfaisant, et les paroles produisent le même effet d'une action bonne ou mauvaise, car elles plantent des idées qui peuvent être suivies d'actes. La langue utilisée à mauvais escient est un piège qui, tôt ou tard, se referme sur la mauvaise langue. Je continue. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. L'insensé manifeste immédiatement son irritation, mais l'homme avisé sait ravaler un affront. Proverbe 12, les versets 15 et 16. Celui qui croit toujours avoir raison est stupide. Et s'il est contredit, il s'emporte sans tenir compte des conséquences de ses paroles. Il se couvre de ridicule, produit une joie maligne chez les autres et parfois même, il déclenche un rixe. Le sage, par contre, fait preuve de maîtrise de soi. Il est posé et tourne sa langue cette fois dans la bouche avant de parler, ce qui lui donne le temps d'écouter et de réfléchir. Je continue. Celui qui proclame la vérité révèle ce qui est juste, mais le témoin mensonger, la tromperie. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. L'homme véridique subsiste à jamais, mais la langue fausse ne dure qu'un instant. Proverbe 12, les versets 17 à 19. Le maître établit trois contrastes par les paroles. Le témoin véridique ou trompeur, la mauvaise langue dont les paroles blessent et la conversation de l'homme avisé qui réconforte. Les paroles véridiques produisent du fruit, mais on oublie les mensonges. Les Écritures critiquent beaucoup le mauvais usage de la parole. Dans son épître, Jacques écrit « La langue est un feu ». C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumer un feu de l'enfer, elle enflamme tout. toute notre existence. Jacques 3, verset 6. Parce qu'il dit, et la manière dont il le dit, un homme révèle ce qu'il a dans le ventre, c'est-à-dire sa véritable nature. Jésus a dit que, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu 12, verset 34. Avec les lèvres, je peux dire la vérité ou tromper mon prochain, le consoler ou le blesser. Mais les gens ne sont pas dupes longtemps. Ils ont vite fait de repérer les mauvaises langues et préfèrent la compagnie de ceux qui sont bienveillants dans leurs propos. Je continue. La tromperie imprègne le cœur des artisans du mal, mais la joie est pour ceux qui donnent des conseils visant à la paix. Proverbe 12, verset 20. C'est malheureux à dire, mais il y a des gens qui ont le cœur tordu, un fond méchant et le diable au corps, car leur disposition première est de nuire. Ce sont de bien tristes personnages. Par contre, ceux qui sèment la paix récoltent la joie. « Heureux ceux qui procurent la paix », a dit Jésus dans Matthieu 5, verset 9. Je continue de lire dans le chapitre 12. « Aucune calamité n'atteint le juste, mais les péchants sont accablés de maux. » Proverbe 12, verset 21. Salomon a déjà dit que « la justice délivre de la mort et le juste est délivré de la détresse » Proverbe 11, les versets 4 à 8. Le maître donne souvent, comme règle générale, que le châtiment est la conséquence naturelle et normale pour celui qui fait le mal, tandis que le bonheur est pour le juste. Ce principe de la rétribution directe est la vision du monde des croyants sous l'Ancienne Alliance. Ils reconnaissent bien les exceptions à cette règle, mais ils sont indignés, comme Job, tandis que l'auteur du psaume 73 écrit « Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, il accumule les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. » Psaume 73, les versets 12 et 13. Je continue le texte. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui sont véridiques lui font plaisir. Proverbe 12, verset 22. Salomon a déjà dit, l'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. L'Éternel a en horreur ceux qui ont le cœur tortueux, mais il aime ceux qui se conduisent de façon intègre. Proverbe 11, les versets 1 à 20. Dieu déteste le mensonge parce qu'il est à l'opposé de son caractère. Jésus a dit de lui-même qu'il est la vérité dans Jean 14, verset 6. Et dans la longue prière qu'il a adressée à son Père, avant la croix, il a aussi dit « Ta parole est la vérité ». Jean 17, verset 17. Le livre des Proverbes condamne très souvent le mauvais usage de la parole. La tromperie est même mentionnée deux fois dans la liste des sept choses que l'Éternel déteste dans Proverbes 6, les versets 16 à 19. On peut mentir effrontément, par omission, en exagérant, par des gestes ou des expressions faciales. Et il n'y a pas de petits mensonges. C'est à se demander s'il existe quelqu'un qui, à tout moment, dise toute la vérité et rien que la vérité. En tout cas, je ne suis pas celui-là.